Ce matin, à mon tour de vous accueillir, pendant que je vais encore juste mettre ma projection en route, et puis ça devrait le faire. Là, je veux saluer ceux qui sont là, peut-être qui nous visitent, qui sont là pour la première fois. Sachez que c'est avec plaisir qu'on vous accueille aussi. Il y a un petit coin dans le hall d'entrée où on peut faire plus ample connaissance. Et puis, ce matin, si vous avez envie d'un témoignage frais, ben vous irez vers Philippe Mattet, qui a failli rester la semaine passée. Il a une belle balafre à la tête. Et vous verrez que c'est une réalité, que c'est Dieu qui est maître de notre vie. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons poursuivre cette série. C'est le sixième message dans cette série des paroles aux actes. J'espère que vous n'êtes pas fatigués, vous n'avez pas marre. Ça va? Supporter? Ok, mais il faut un peu insister, taper sur le clou pour que vraiment on arrive peut-être un petit peu, éventuellement, à passer aux actes. Alors nous avons vu les semaines précédentes, après une introduction au livre des actes, nous avons vu l'importance d'écouter, nous avons vu le besoin que nous avons d'être audacieux, courageux. Nous avons vu l'importance d'avoir un cœur de serviteur. Et puis la semaine dernière, l'importance d'obéir, l'obéissance à la voix de Dieu. Alors, je ne vous dis pas encore de quoi je parle ce matin, suspense. Par contre, j'ai une autre question, c'est comment va votre lecture? Est-ce qu'il y en a qui ont pris le pari de lire le livre des actes en 3 mois? Là, je vois des têtes. Plus personne. Ah, merci Alain, il fait le bon. Ah, super. Donc, ceux qui ont fait ce pari-là, j'avais dit, c'est à peu près 2 chapitres par semaine, donc vous devriez avoir terminé le chapitre 14 dans votre lecture. Et puis si par hasard il y a des gens qui se disent « Ah ben j'ai pas commencé », eh ben c'est pas grave, prenez le temps que vous voulez, mais je vous encourage à parcourir ce livre des actes. Je vous rappelle aussi que les résumés des messages sont disponibles sur papier. Alors, bien sûr il y a l'enregistrement audio, mais sur papier un petit résumé à la sortie. Et puis ils seront aussi disponibles en PDF par la suite à la fin de la série. Je lisais cette semaine un livre qui parle de l'Église, avec un grand E, notre manière aussi de vivre la communauté, l'Église locale, la pertinence de l'Église. Et puis l'auteur rappelait que l'Église était appelée à se développer à la fois comme une fiancée, la fiancée du Christ, la famille, avoir un esprit de famille. C'est aussi l'Église un lieu d'apprentissage, un hôpital, une entreprise missionnaire, puis aussi une armée. On est l'armée de Dieu. Alors des fois, on n'est pas des vaillants héros, mais ce n'est pas nous, c'est lui qui le fait. D'accord? Donc nous sommes l'armée de Dieu. Et dans cette série de messages, on désire vraiment encourager chacun à entrer dans cette dimension d'entreprise missionnaire. Donc voilà, il y a des messages où on parle plus de la dimension de prendre soin, mais cette série de messages est vraiment ce but d'entrer dans cette dimension missionnaire pour passer des paroles aux actes. Et chaque fois, je me dis, mais quel potentiel énorme, quelle puissance, lorsque chacun de nous, représentant l'Église avec ce grand E, allant encore un peu mieux, encore un peu plus, écouter et répondre à l'appel de Dieu. C'est grand, c'est magnifique. Alors, j'aimerais vraiment pas vous fatiguer avec cette série, mais j'aimerais encore vous enflammer pour l'Évangile. J'aimerais vraiment que nous soyons cette Église passionnée pour Jésus. Et dans ma lecture récente des livres des actes, il y a encore un élément, il y en a encore beaucoup, mais un élément qui m'a frappé, c'est l'aspect communautaire, c'est l'aspect de l'unité. Et c'est cela que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dans mon introduction, j'avais dit qu'un thème clé dans Luc et Actes, c'est la continuité du plan de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on passe des paroles de Jésus dans les évangiles, à l'action des disciples de Jésus qui sont conduits par l'Esprit-Saint. Et bien que le livre des actes nous décrit les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, il est évident qu'il ne s'agit pas de prouesses exercées par quelques spécialistes solitaires. Puis si c'est ça que vous aviez comme idée, il faut vraiment déconstruire ça, il faut oublier ça. Leurs actions qui surviennent après la Pentecôte sont non seulement celles des apôtres, mais c'est celles de l'Église. C'est celle d'une église naissante, la première église. Donc c'est une action communautaire. Et c'est vraiment ça que j'aimerais laisser dans vos cœurs aujourd'hui. Dès le début du livre des Actes, on voit une équipe de disciples qui se tient ensemble dans la prière, et c'est aussi ensemble qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors on va regarder quelques passages dans les Actes qui vont nous montrer cette unité. Le premier passage, c'est dans Actes 1, les versets 14 et 15. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Un petit peu plus loin, acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils se tenaient ensemble, ils étaient là, après, au moment de la Pentecôte. Et quelques exemples plus loin, acte 4, 24 et le verset 32. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Donc toute l'équipe là qui était là, ils s'adressèrent à Dieu, ils prièrent ensemble. Verset 32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Donc une réelle vie communautaire. Acte 5, 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Acte 15, 25, c'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Puis je reviens un petit peu en arrière avec ces quelques versets de Acte 2, les versets 44 et 47, qui disent « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Amen. C'est des versets que sûrement vous avez lus, peut-être que vous avez désiré dire « Ah, si seulement on pouvait vivre ça, vivre cette réalité de cette vie un peu communautaire comme ça, la simplicité de cœur. » Et je crois que oui, c'est des choses qu'on doit rechercher. Mais rien que dans ce dernier test, regardez un tout petit peu l'insistance. Hein. Ils étaient tous dans le même lieu, tout en commun. Ils partageaient entre tous. Tous ensemble, ils allaient au temple. Donc on voit aussi la vie un petit peu des premiers chrétiens qui continuaient à avoir une vie religieuse au temple. Mais ils mangeaient aussi ensemble, ils louaient Dieu ensemble, etc. Alors imaginez aujourd'hui qu'on se réunisse tous ceux qui croient dans un même lieu. Ce serait super, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aurait pas un lieu assez grand. Génial! Donc l'évangile a vraiment progressé. D'accord? On ne pourrait pas se retrouver tous les croyants dans un même lieu. Il faudrait le construire, il faudrait trouver, un désert bien vide pour qu'on s'y mette tous. Il n'y aurait pas assez de place. Mais aujourd'hui, nous sommes une partie de ce tout, réunis en un même lieu ce matin, pour prier, pour louer Dieu, pour mettre au commun nos ressources, pour manger ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui veulent rester manger, vous pouvez manger, rester ce midi, et il y aura des bonnes pâtes, pour que nous puissions vivre cette communion fraternelle. Cool, hein? Donc on va même manger ensemble aujourd'hui. Mais alors, je peux dire, super, moi je ne sais pas pourquoi ces versets-là ils me touchent particulièrement, parce que finalement, on le vit déjà. C'est super. Mais peut-être que c'est la question du but qui devrait nous interpeller, le but de l'unité. Cette attente commune, cette recherche commune, cette vie de l'esprit commune, cette générosité partagée, cet enthousiasme commun était nécessaire pour la propagation de l'Évangile. C'était le bon terreau, c'était le socle solide sur lequel Dieu voulait bâtir son Église. Et il veut continuer à le faire. Donc ce que nous vivons déjà, c'est important, c'est bien. Donc j'ai parlé en introduction de la dimension de famille, d'hôpital, d'apprentissage. Donc on devrait trouver dans ce lieu, l'amour, le soutien, sachant qu'il n'y a pas d'église parfaite. Hein, on y tend, on est tous en route, en chemin. On devrait trouver ça. Et on y travaille aussi, à vivre ce soutien mutuel. Mais cette dimension communautaire, cette unité, n'est pas juste pour nous. Elle doit être un témoignage et un fondement solide en vue de ce que Dieu veut accomplir. C'est un petit peu ce que je vous dis depuis pas mal de temps, je crois. C'est que Dieu nous donne des choses, mais Dieu veut que ça aille plus loin. Dieu ne veut pas qu'on garde, Dieu ne veut pas qu'on soit juste des récipients, qu'on soit vraiment des sources de bénédiction. Donc c'est vrai pour l'unité. L'unité, elle est bonne entre nous. Ça fait du bien si on est unis. C'est important qu'on se soutienne les uns les autres. C'est important de trouver de l'amour dans ce lieu. Mais il y a un but qui est plus grand que ça. Il y a un but qui nous dépasse. Le terme qui revient le plus souvent, vous avez vu dans ces textes, est d'un commun accord. Vous l'avez peut-être relevé. Et ce n'est certainement pas par hasard. Cette expression, elle est utilisée seulement 12 fois dans le Nouveau Testament. Mais elle est utilisée 10 fois dans le livre des Actes. Et je crois que c'était justement parce que il fallait qu'on comprenne, qu'on voit que l'unité était fondamentale. C'était vraiment le socle des actes des apôtres. Alors bien sûr, ils étaient une minorité, puis ils devaient se serrer les coudes. Hein. Puis ça, vous avez tous fait l'expérience. Moi, je me souviens quand on s'est expatrié au Québec, ben, on avait envie de retrouver des Suisses ou au moins des Français. C'était pas pareil, mais on arrivait quand même à faire la raclette. Ça va. La tartiflette, ou je sais pas quoi. Ils mettent beaucoup de charcuterie, donc finalement, ça me plaisait encore plus. Donc voilà, on avait le besoin de se retrouver avec des gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent, qui vivent la même chose. Ils étaient aussi, ils avaient quitté leur famille, etc. Donc on se met ensemble, on se serre les coudes. Donc c'est vrai, là, c'était une minorité. Donc ils avaient cette pensée assez logique de se mettre ensemble pour être plus forts. Mais en passant, j'ose vous rappeler quand même que nous sommes 3% de chrétiens évangéliques en Suisse, d'accord ? Donc nous sommes aussi une minorité, et il est bon de se serrer les coudes, d'accord ? Mais dans tous les cas, ce n'était pas l'affaire juste de quelques-uns. Bien que quand on lit les actes, ben, y a des prénoms qui reviennent régulièrement. Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Paul, bien sûr, Barnabas. On lit ça, puis on a l'impression qu'il n'y a qu'eux. Mais c'était bien l'Église qui était en action par le Saint-Esprit. Derrière les actions de ces apôtres qui sont mises en avant dans ces récits, ben, y a une Église qui priait. Il y a une Église qui avançait. C'était l'Église qui grandissait. C'était l'Église qui envoyait, comme on a vu pour Paul et Barnabas. C'est l'Église aussi qui combattait, qui pleurait quand les autres pleuraient, qui pleurait dans le moment des difficultés. C'est l'Église qui pourvoyait, c'est l'Église qui encourageait. C'est l'Église aussi qui relevait. Donc il n'y avait pas juste quelques héros qui étaient là, mais il y avait l'Église. Donc ce commun accord présent depuis le chapitre 1, il est vraiment fondamental à l'œuvre de l'Esprit. Et ce matin, nous parlons de passer des paroles aux actes, et moi je suis travaillé par ce thème de l'unité, par ce besoin d'unité, le faire tous ensemble, d'avancer, de chercher Dieu ensemble, de prendre le virage qui est devant nous, tous ensemble, d'un commun accord. Quel défi! Et je pense qu'on serait en droit de se demander si c'est réellement possible. Est-ce que c'est réellement possible que la communauté qui est là, l'escale, puisse prendre un virage ensemble? En arrivant dans cette église, le Saint-Esprit m'a vraiment montré que le temps pour nous était de traverser le Jourdain. Vous savez, c'est Josué qui était là avec le peuple, qui a dû traverser ce Jourdain pour entrer dans cette terre promise, pour entrer dans le pays de la promesse. C'était pas facile d'arriver dans le pays de la promesse, hein. C'est pas on traverse le Jourdain, puis après tout est là. Non, il fallait encore le conquérir, il y avait encore des combats qui étaient là, mais il fallait déjà traverser ce Jourdain. Et puis, le Saint-Esprit m'a vraiment, comme mis en garde, ou dit, il faut que tu prennes tout le monde avec. Et franchement, humainement, ça me semble difficile. Mais si Dieu le désire, alors il va l'accomplir. Et dans ce qui est dans ma sphère de responsabilité, je veux toujours veiller à l'unité. Je veux pas laisser, je veux laisser personne derrière. Parce que c'est ensemble, d'un commun accord, que nous devons entrer dans la nouvelle saison qui est devant nous et nous emparer des promesses que Dieu a pour cette communauté. Et je suis absolument certain que plus on sera unis, plus l'impact sera grand. Alors dans les actes, on découvre cette réalité de l'Église naissante qui vit cette unité, qui vit les choses d'un commun accord. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, finalement ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, je vais vous faire un tout petit peu de grec, et puis ma prononciation est très mauvaise. Mais commun accord, ça vient de homotomadon. D'accord? Ça va jusque-là? Vous voulez essayer? Allez, essayez. Dites à votre voisin, homotomadon. Il y en a qui devraient s'y mettre au grec, hein? Alors, ce mot que je ne répéterai pas est formé de deux mots. Ça vient de « avec passion » et « à l'unisson ». C'est pas génial, ça? Donc, si nous avons besoin d'être d'un commun accord pour que l'escale passe des paroles aux actes, cela signifie que nous avons besoin d'être passionnés. Passionnés pour la même cause, passionnés pour l'Évangile, passionnés pour la même personne, Jésus et son œuvre. Et Raphaël développera plus qu'est-ce que c'est cette passion que nous avons besoin la semaine prochaine. Mais voilà, encore une fois, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas fabriquer la passion. La passion, elle se cultive, mais ce n'est pas nous qui la fabriquons. Et je ne peux pas moi-même être passionné à la place de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas non plus vous. Je peux ce matin que vous dire mon cœur. Oui, c'est passionnant de connaître Jésus. Oui, c'est passionnant d'être utilisé par Jésus. C'est passionnant de vivre avec Jésus. Ça, je peux vous le dire, je peux vous le témoigner, mais je ne peux pas le vivre à votre place. Et nous vivons dans une période de l'histoire où il n'y a plus grand-chose de passionnant, vous savez. Les gens ne sont plus passionnés par rien, ils n'ont même plus le temps d'être passionnés. Quoi, une passion? T'es fou. Je n'ai pas le temps d'être passionné. Et puis on pense qu'on connaît déjà tout. Même si on parle de Jésus, bah oui. Même nous chrétiens, bah oui. Je ne vais pas me laisser encore passionner. Enfin, je veux dire, c'est bon, je connais maintenant. Je crois vraiment que le premier pas pour vivre en commun accord, qui va nous amener des paroles aux actes, c'est d'être des chrétiens passionnés. Laissons-nous, ce matin encore, toucher. Demandons au Saint-Esprit de briser ce qui doit être brisé. Parce que parfois, moi-même, je dis, mais Seigneur, j'ai comme une frustration. J'ai envie d'être passionné. Puis c'est comme si des fois, il y a quelque chose qui me bloque. C'est comme si je suis des fois détourné. J'arrive pas. Mais demandons au Saint-Esprit de briser ces choses-là. Ou de nous montrer, de couper ce qui doit être coupé. Vraiment pour que nos cœurs se laissent toucher et passionner par l'amour de Jésus et son appel. Ça, c'est ma prière pour nous ce matin. Mais je ne vais pas plus loin dans la passion parce qu'on en reparlera. Nous avons un deuxième besoin, c'est d'être à l'unisson. Et ça, c'est vraiment très parlant, n'est-ce pas? Ceux qui ont fait un peu de musique, hein, ça leur dit tout de suite quelque chose. Lorsque plusieurs instruments jouent ensemble une même mélodie, ils sont à l'unisson. Différents instruments peuvent jouer différentes notes, mais en harmonie. Donc ça, c'est toute la richesse de la musique qu'on a pu vivre encore ce matin. Et d'ailleurs, en musique, vous savez, ceux qui ont fait un peu de musique, un truc très simple, un accord est formé de trois notes. D'accord? Juste trois notes. Hein, on peut, donc si je prends, on peut faire un petit essai. Si je prends le piano, d'accord? Et ça, c'est quand même génial. Une note, deux notes, trois notes, accord de Do. C'est magnifique, hein? Voilà. Merci, merci beaucoup. Donc, mais trois notes qui forment un. Donc, c'est quand même. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a une vision trinitaire. Hein, trois qui forment un. Il y a une harmonie. Et puis, il y a cette réalité de la différence. C'est trois notes différentes qui vont former cette harmonie. Donc, pour être d'un commun accord, il ne s'agit pas d'être tous les mêmes. Ça, c'est une bonne chose. Il ne s'agit pas de tous faire la même chose. On a différentes fonctions, différents appels. Mais lorsqu'on se rassemble ensemble, nous pouvons être en harmonie. Nous tirons à la même corde. Nous visons le même but. Nous pouvons louer Dieu ensemble, œuvrer par le même esprit. Nous sommes un même corps avec des fonctions différentes. C'est 1 Corinthiens 12 qui le dit. Il y a diversité, mais il y a harmonie. Ça, c'est magnifique, c'est le but, mais c'est un enjeu terrible. Trois notes différentes forment l'harmonie. Pour passer de la parole aux actes, nous avons besoin de vivre l'unité, d'être d'un commun accord, c'est-à-dire d'avoir une même passion qui, bien qu'exprimée différemment, sera à l'unisson et en harmonie. Donc ce message d'unité qui était très présent dans les actes, dans la première église, dans les actes, était aussi clairement, fortement sur le cœur de Jésus. Et alors qu'il va prier son Père en faveur de ceux qui ont cru, il va insister sur l'unité par 5 fois. Et on va faire un petit passage dans Jean au chapitre 17. On va lire cette prière de Jésus ensemble, qui a dit ceci: « Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Amen, quelle prière. Donc voilà, j'ai souligné les 5 fois où il est question d'être un. Alors il y aurait énormément à dire sur cette prière, mais je veux simplement relever cette insistance de Jésus quant à l'unité. Être un comme le Père et le Fils sont un. Et au verset 21, il y a un but à ça, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc il y a une dimension qui est de l'évangélisation, qui est de la conversion. D'accord ? Donc l'unité, ce n'est pas juste pour qu'on soit bien dans les bras de notre Père Céleste, qu'on soit bien ensemble, c'est qu'il croit, c'est qu'il voit. C'est intéressant. Et la première église était vraiment au bénéfice de cette prière de Jésus, et j'ai aucun doute que nous le sommes encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Alors, l'unité du Père et du Fils était basée sur 3 choses qu'on va vite voir, c'est l'identité de nature, donc leur existence, leur activité, leur but, leur volonté sont les mêmes, Père et Fils. Deuxième chose, c'est leur amour parfait. Puis la troisième chose, c'est leur parfaite sainteté. Et en fait, Jésus prie pour que nous puissions vivre cela avec eux. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas juste d'être d'accord entre nous sur nos activités, nos objectifs, et puis vouloir la même chose et s'aimer. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. On pourrait, on se met d'accord, on dit « Ok, c'est quoi qu'on veut faire ensemble ?» Et puis là, on essaie d'avoir une unité. Mais c'est encore beaucoup plus large que ça que Jésus désire. Il veut qu'on le vive avec eux, Père et Fils, par le Saint-Esprit. Et c'est possible parce que 2 Pierre 1, 4 nous dit que par la puissance de Dieu en Christ, nous sommes devenus participants à la nature divine. Donc nous sommes aujourd'hui plus les mêmes. Notre nature pécheresse, elle est, par Jésus, elle est tombée. Donc nous sommes participants à la nature divine. Donc nous pouvons avoir cette identité de nature. Nous pouvons entrer vraiment dans cette réelle communion. Et puis nous lisons évidemment, encore une fois, dans 1 Corinthiens 12, que nous sommes un seul corps. Et c'est qui la tête du corps ? C'est Jésus. D'accord ? Donc c'est possible. C'est notre unité en lien à la volonté de Dieu, au but de Dieu qui fera une différence. C'est notre unité dans l'amour parfait de Dieu qui va faire une différence. D'ailleurs, Jésus dira aussi à ses disciples que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'on verra qu'ils sont, que le monde verra qu'ils sont ses disciples. Donc, c'est aussi notre unité dans la sanctification qui est rendue possible par la croix, par l'œuvre de Jésus, qui va faire une différence. Alors, Jésus a prié pour l'Église. Jésus a prié pour ceux qui ont reçu sa parole, qui ont cru. Et il a prié qu'ensemble, ils soient un. Il n'a pas juste prié pour Pierre, pour Jean, mais il a prié pour tous. Parce que c'est vraiment ensemble, dans l'unité, que la puissance de Dieu va pouvoir se manifester. Vous avez certainement déjà expérimenté la puissance de l'unité dans la prière. Vous avez déjà expérimenté ça ? C'est génial. Encore récemment, on l'a vu. Des fois, on est un peu timide. On se dit, est-ce que vraiment j'ose demander à des gens de prier pour ma situation parce qu'elle est peut-être un peu banale par rapport à d'autres. Hein, et puis nous, on avait une petite chute avec notre fils, là en arrière, on n'était pas rassurés. J'ai envoyé quelques messages, dit « priez pour nous ». Et alors qu'il était aux urgences, à la minute où les messages sont partis, je peux dire, il y a vraiment eu un changement. Enfin, à la minute, en tout cas, au moment où les gens ont prié, ce n'était pas normal. Il n'allait vraiment pas bien, et soudainement, il y avait un changement. Il a commencé à raconter sa vie, alors qu'avant, il voulait juste dormir et tout. Et ma femme peut en témoigner. Et voilà, donc la puissance de la prière quand on se met ensemble. Et dans les réunions de prière, il y a toujours un verset qui fait le buzz. Vous allez certainement savoir lequel, hein. Je pense qu'on le cite environ à 99% du temps. Et je suis sûr que la prochaine réunion de prière que vous allez faire, votre groupe de maison, vous allez en rire d'ailleurs. Donc ce verset, c'est Matthieu 18, 20, qui dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Bon, alors après, il y a quelques questions. Est-ce que ça veut dire que quand je suis tout seul, il n'est pas là ? Ah non, bien sûr, il est là. Mais par contre, il ne peut pas être au milieu. Voilà. Soyons logiques, d'accord ? Des fois, il faut être un peu terre à terre, hein, c'est OK. Hein. Bon. Mais parfois, certains vont dire, on arrive à la réunion de prière, vous savez, c'est très fréquenté les réunions de prière, et puis ils disent, ouf, on est plus que deux. Hein. Ouf, on est au moins deux ou trois. Alors là, c'est bon, on peut y aller, on peut prier. Autrement, je ne sais pas ce qu'on aurait trop fait. Ou bien certains vont dire, bon, ben, Seigneur, maintenant qu'on est plus que deux ou trois, alors là, ça va y aller, quoi. Parce qu'on est plus que deux ou trois. Non, bon, on peut prier tout ça, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Jésus lui-même qui rend efficaces nos prières par sa présence. Voilà, ça, on peut le comprendre comme ça, hein, ce verset. Il est là, il est au milieu de nous, et puis il rend efficaces nos prières. Mais l'enjeu, en réalité, il est au verset précédent. Au verset 19, il dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est aux cieux. » Et l'enjeu, il est là, c'est de s'accorder. C'est de nouveau la même chose, c'est d'être à l'unisson, c'est d'avoir une harmonie. Ce terme, il dit ça aussi. Donc oui, la prière en commun a de l'efficacité par Christ, mais c'est une prière dans l'unité qui va toucher le cœur du Père. Et l'Église des Actes avait vraiment compris cela. Et je crois qu'on doit à nouveau comprendre ça. Et c'est pour ça que je vous invite à venir à ces journées aussi de rafraîchissement, de jeûne et prière, où on cherche Dieu ensemble, où on a une attente de Dieu. Il y a de la puissance dans l'unité. L'unité de la prière, c'est sûr, mais aussi il y a de la puissance dans l'unité lorsque nous sommes unis dans la vision, unis dans la mission à laquelle Dieu nous appelle. Lorsque nous sommes unis dans notre générosité, lorsque nous sommes dans l'unité, dans les difficultés, il y a de la puissance. Et ce que j'ai encore envie de vous transmettre ce matin, c'est que vous êtes l'Église. Et c'est dans l'unité qu'ensemble, on va vraiment pouvoir passer des paroles aux actes. Mais chacun devrait se sentir concerné. Chacun. Vous faites partie de l'Église. Vous avez sûrement déjà vu cette petite image de travail en équipe que je trouve assez formidable. Hein. Elle est tout à fait parlante. Et je crois que voilà, vous avez une fonction dans le corps de Christ, vous avez une note à jouer pour que l'harmonie soit belle. Alors pour mon illustration suivante, j'aimerais 6 personnes. 6 personnes volontaires, on y va, go, go, go. Prenez pas, on va voir les audacieux. 1, 2. Allez, allez. 3, 4, 5, Déborah. Ok. Bon. Ouais, ouais. Heureusement qu'il y a Déborah qui se lève. Hein. Voilà, la femme biblique, prophétesse qui s'est levée. Eh ben, elle se lève encore aujourd'hui. Hein. Ouh. Bon, une Déborah. Alors, un petit tir à la corde. Trois de côté, trois de chaque côté, d'accord ? Allez un peu là-bas, là, tendez-moi cette corde. C'est une mini-corde, hein ? C'est tout ce que j'avais trouvé dans ma voiture. Bon, voilà. Alors, on va imaginer que, oui, quand je dis on tire à la même corde, ben c'est une réalité qu'il y a un ennemi invisible. Que lorsque l'Église se met ensemble pour tirer, eh bien, quelque chose se passe. Oui, ça, vous le savez, que l'union fait la force. Ça, c'est une réalité. Okay, donc, on va dire que eux, ils jouent le mauvais rôle. D'accord, c'est l'ennemi. D'accord, c'est les méchants. Okay. Et puis, bon, là, si vous tirez un peu, on va voir un peu comment ça se passe. Hein, bon, là, ça, voilà, c'est bon. Ok, donc là, ça, c'est un peu, pour l'instant, c'est équilibré. Hein, bon, on sait que Jésus a la victoire. Ok. Mais la réalité, c'est que si maintenant, Fred, t'as ton iPhone.
Non, pas sur moi.
T'as un iPhone, un Atel. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes des modèles parfaits. Ok. Maintenant, tu fais du WhatsApp, tu penses à autre chose, tu es sur Facebook. Hein, voilà. Puis maintenant, on essaye un peu de tirer, là. C'est moins bien. Hein, d'accord. Ok. Et puis, si Déborah, tu vas t'asseoir un petit moment, et puis tu te dis, bon, moi, je ne suis pas vraiment concerné par ce qu'ils sont en train de vivre, là. Hein, parce que franchement, l'escale, c'est joli. Ils ont un tas de projets, mais ce projet-là, franchement, moi... Alors, quand il y a de l'opposition... Eh bien, il manque quelqu'un, hein. Voilà. Puis on voit que Déborah fait la différence. Ok. C'est bon, vous pouvez vous rasseoir. Merci pour le... Voilà. Donc, chacun doit être concerné, en fait. Et c'est ce que nous avons voulu aussi semer dans vos cœurs lors du service PAC. Il y a des gens qui ont géré des projets. Il y a d'autres qui ont... laver des voitures, il y a d'autres qui ont joué avec des enfants, d'autres personnes encore qui ont fait des gâteaux pour le brunch, il y a des personnes qui ont décoré la salle, il y en a certains qui ont mis des dispositions, des bidons de lave-glace, des gros bidons comme ça, magnifique. Hein, il y en a qui ont prêté leur aspirateur, il y a d'autres qui priaient, il y a d'autres encore qui ont donné des mots d'encouragement, et il y a même une personne qui m'a demandé si elle pouvait mettre en place un panneau pour que les gens puissent déposer un sujet de prière. Et cette personne m'a dit, je ne suis pas là au service PAC, mais j'ai ça à cœur. Vous pouvez encore le voir à l'entrée, vous pouvez encore mettre des sujets de prière. J'ai trouvé ça, c'était une très bonne initiative. Mais on a goûté à ce qu'est l'Église, ensemble d'un commun accord. Et puis j'ai ressenti fortement que ce que nous faisions dans ce service PAC était juste. Et il y avait des fruits, il y a eu des fruits déjà. Alors que ce soit ça ou autre chose, personne ne devrait dire « c'est pas mon truc ». Parce qu'il ne s'agit pas de nous-mêmes, il ne s'agit pas de soi. On est ensemble, on est une communauté. Même si la mission proposée vous parle moins, vous pouvez encourager, vous pouvez prier, vous pouvez aimer. Ce n'est pas la question de donner forcément d'être là. Mais il y a des gens qui m'ont écrit un message, qui m'ont dit « on ne peut pas être là, mais on est à fond avec vous, on vous soutient, on est fiers ». On prie. C'est ça le corps de Christ qui est à l'œuvre. Et vous en faites partie. C'est vrai aussi que le Saint-Esprit dépose des rêves, des visions à certaines personnes qui vont être appelées à s'entourer d'autres personnes. Hein. Ils vont devoir communiquer ce qu'ils ont reçu. Mais la réalité, c'est que tout le monde ne peut pas être porteur de la vision. On riait l'autre jour, je crois, justement avec Philippe, hein, par rapport à l'arche de Noé, ben c'est vrai, il a parlé à Noé, il n'a pas parlé à sa femme, il semblerait. Mais il avait reçu quelque chose, puis il fallait y aller. Et c'est intéressant parce que des fois, on aimerait toujours être porteur, mais non. Et j'ai mis simplement, tous ne seront pas porteurs de la vision, mais tous peuvent la soutenir. Et on peut même avoir des avis divergents. Même avoir des manières de faire différentes en étant en harmonie. C'est possible. Parce que ce qui doit compter, c'est notre obéissance. Et ce qui est important, c'est que l'évangile soit annoncé. Et Paul l'a aussi dit. Hein, ses disciples venaient, puis il dit, mais t'as vu, eux, ils font ça comme ça. Puis il dit, bon, moi, ce qui m'importe, c'est que l'évangile soit annoncé. Si l'évangile est prêché, c'est OK. Et on fait des choses en obéissance à ce que Dieu nous appelle de faire, puis peut-être que quelqu'un le ferait différemment. Mais est-ce que ça veut dire que je dois être contre? Est-ce que ça veut dire que je dois me comparer? Non, je peux très bien bénir, je peux très bien prier, je peux dire, ben, c'est super ce qu'ils font, et puis encourager. Puis si Dieu t'appelle à autre chose, ben, vas-y, obéis, et puis à notre tour, on va soutenir, à notre tour, on va encourager. Nous avons besoin de nous tenir ensemble devant notre Dieu, je conclus, pour être enthousiasmé par son œuvre, passionné devant ses projets, en harmonie avec le cœur du Père. Alors, est-ce que je peux faire encore quelque chose? On va prendre quelques instants la Sainte Cène et puis vous allez pouvoir vous avancer pour prendre la Sainte Cène. Mais j'aimerais juste qu'on puisse se lever et puis en signe d'unité, qu'on puisse se donner la main. D'accord? On essaye? S'il y a des trous, c'est pas catastrophique, hein? C'est juste symbolique. D'accord? Et puis, j'aimerais relire ce verset 4, 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Et devant les projets que Dieu a préparés pour nous, je prie que nous soyons vraiment un seul cœur et une seule âme. Je prie que nous ne retenions rien de ce que nous possédons. Puis là, je ne parle pas juste financièrement, d'accord? Il y en a qui vont se dire, il veut juste avoir de l'argent. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Mais c'est notre créativité, c'est notre temps. Puis bien sûr, ça peut être notre argent aussi. C'est tout ça, mais que personne ne dise, ça c'est juste pour moi. Mais que nous puissions avoir ce cœur qui met en commun, qui met ses capacités en commun, qui met ses dons au service de tous. Pour libérer les promesses de Dieu pour cette ville d'Yverdon et au-delà. Alors j'aimerais juste prier simplement. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans nos vies. Père, merci pour l'œuvre que tu fais en Jésus dans nos vies. Merci Jésus pour cette prière d'unité. Merci de nous rendre participants à la nature divine. Et ce matin, c'est une réalité qu'ensemble, nous pouvons être en harmonie. Seigneur, je prie que nous soyons réellement un seul cœur, une seule âme. Seigneur, je prie que personne soit mis de côté, que personne se sente rejeté, que personne soit en arrière en pensant que ce n'est pas pour lui ou elle. Seigneur, je prie que nous puissions avancer comme un seul homme, comme cette armée aussi, tirer à la même corde pour voir ton œuvre avancer dans cette ville d'Yverdon. Seigneur, nous réalisons ce matin que l'enjeu, ce n'est pas juste notre bien-être, mais c'est que beaucoup puissent croire, beaucoup puissent découvrir et voir que tu es celui qui nous a aimés. Seigneur Jésus, je prie que notre unité ne soit visible au-delà de ces murs, soit visible dans les projets que nous portons. Et je veux bénir, Seigneur, les leaders, les personnes qui, dans ce lieu, portent des projets, que ce soit des ministères, tout ce qu'ils font à l'extérieur aussi de ce lieu, mais qu'ensemble, nous puissions porter, qu'ensemble, nous puissions supporter, prier, Seigneur Jésus. Merci pour le cadeau, la grâce de l'unité au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.